Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello? Who is this?
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Il était un peu bizarre ce jingle, un peu étrange.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui nous a hacké là? Qu'est-ce qui se passe là?
Et ben en effet, c'est un jingle un peu spécial pour un épisode un peu spécial. Ça va faire un an qu'on avait fait notre dernier épisode sur Returnal.
Ouais.
Épisode du coup d'une heure vraiment qui était centré sur un titre.
Pas d'une heure, je crois. Je crois qu'il durait à peu près une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure.
Ah ouais?
Ouais. Ouais.
Bon, bah là, on fait le double. Là, ça sera une heure. Parce qu'on parle d'un jeu vraiment aussi très, très unique, très particulier, qu'on a, ouais, on va dire beaucoup aimé, ça serait un euphémisme.
Ouais, on a surkiffé. On a fait récemment.
Et du coup, voilà, on a beaucoup réfléchi à sur quel titre on allait donc aborder à ce hors-série pour cette saison 2 de RNG. Pas mal de titres qui sont passés, des Bloodborne, des Bioshock Infinite, parce qu'il y aurait eu du débat, des choses comme ça. Et en fait, on s'est attardé donc sur Disco Elysium, donc RPG narratif.
Sorti récemment, ouais.
Ouais, sorti en 2019, développé par Zyom, un studio estonien. Et on va essayer un peu de passer en revue sur une heure. Qu'est-ce qui fait que c'est un jeu spécial? Qu'est-ce qui fait que Soul et moi, c'est un de nos jeux coup de cœur, peut-être même un de nos jeux préférés.
Mm-hmm.
Et voilà, je vais laisser un peu la parole à Soul pour déjà demander qu'est-ce que c'est Disco Elysium, est-ce que ça se mange, tout ça, le classico-classique.
Pas mal. Non, Disco Elysium, je pense que. Un peu comme Returnal, on va reprendre un peu la formule. Je pense qu'au lieu de dire « Disco Elysium est un jeu sorti en octobre 2019 », non, on va aller plus loin que ça. On va vraiment aller à la genèse. On a le temps, prenons le temps pour tenter d'expliquer. Surtout qu'il y a vraiment des choses intéressantes, je pense, dans tout ce qui précède un peu Disco Elysium. Parce que c'est un peu c'est un jeu différent quand même. Je pense qu'il mérite une forme d'intention particulière. Donc, on pose le contexte. On est en Estonie, Europe de l'Est. On est en 1984. Et il y a un bug, il arrive, il est inné. C'est un mec qui s'appelle Robert Kurwitz. Retenez ce nom, c'est le mec qui nous intéresse. Ce mec-là, en fait, il est né en 84, et comme pas mal de nerds nés dans les années 80, c'est un fan de Donjons et Dragons et de jeux de rôle papier. Et donc, en fait, quand il avait 15-16 ans, du coup, quand on était dans les années 2000 à peu près, lui et ses amis, contexte, il a quitté l'école, il se considérait lui-même comme un parasite à ce moment-là de sa vie. Tout ce qu'il faisait kiffer, lui, c'était les jeux de rôle avec ses potes. Et en fait, il va créer un univers de toutes pièces dans lequel, en fait, il pourrait jouer avec ses amis à des jeux de rôle papier. Et ce qui est intéressant avec l'univers qu'il crée, c'est qu'on n'est pas dans un univers de D&D classique en mode, des chevaliers, des dragons, des elfes et de la magie, ou même un monde futuriste à la cyberpunk ou quoi. Sont des univers qu'on retrouve beaucoup dans les jeux de rôle. Non, lui, ce qui lui fait kiffer, c'est vraiment, il va créer un univers qui est vraiment très similaire au nôtre, clairement. Il est dans le monde qu'il va créer, qui est celui de Elysium, du coup. C'est un monde qui est très proche du nôtre, avec quand même des gros éléments de science-fiction, des éléments surnaturels qui vont faire que ce monde-là est unique en son genre. Et en fait, du coup, ce monde-là, il va progresser, c'est-à-dire... À force de jouer avec ses amis, il y en a qui vont rajouter des éléments, il va être défini politiquement, pas mal de choses vont venir enrichir Elysium. Et en fait, il va devenir écrivain, il va écrire un bouquin en 2013 qui du coup se passe dans le monde qu'il a créé, qui est celui d'Elysium. Et ce monde, c'est Ère sacrée et terrible, qui est sorti en 2013, du coup un roman. Et c'est une réussite totale. C'est vraiment... Non, c'est faux. Le livre, il va bider de malade. Le roman, il va faire, je crois, 2000 ventes, même pas, c'est ridicule, c'est un big flop, mais bon, c'est un premier livre. Mais c'est la première fois que, on va dire, le monde d'Elysium est mentionné publiquement. Et du coup, comme pas mal, on va dire, là, d'auteurs un peu comme pas mal d'auteurs qui flop, il va tomber dans la dépression, il va tomber même un peu dans l'alcoolisme, il va vraiment être dans une année hyper compliquée, post-2010, il va... Ça va être vraiment une période sombre pour notre poteau Robert. Sauf qu'il a un pote qui lui dit « Hey gros, là, ton monde d'Elysium, le truc que t'as créé, faut que t'en fasses un jeu vidéo, en fait. » Et il hésite vraiment, il se dit, bah, le mec, il a pas d'expérience en jeu vidéo, il a quitté l'école, il est pas développeur, il en chie, mais il se dit, eh, vas-y, fuck it, on fonce, et on va trouver un moyen pour aller développer ça, en fait. Et du coup, pour aller trouver des financements et tout, comment il va décrire son jeu. Alors là, préparez-vous. Robert Kurwitz décrit son futur jeu de cette manière. Il dit, alors c'est Donjons et Dragons qui fusionne avec une série policière des années 70 dans un monde fantastico-réaliste avec des épées, des flingues et des voitures. Visuellement conçu comme un CRPG isométrique, un CRPG c'est des RPG qui sont pensés pour être joués sur ordinateur, sur PC, et il dit que c'est un jeu qui est dans la lignée de Planescape Torment, qui est un RPG du père late 90s, et Baldur's Gate, un peu plus connu, dont le premier titre est sorti en 98, donc des jeux qui l'ont beaucoup influencé. Et il dit également que son jeu possède une histoire complexe et massive, où l'on explore un ghetto vaste et fortement touché par la pauvreté, avec des combats stratégiques et profonds. Waouh. C'est... combats stratégiques et profonds, on y reviendra plus tard, mais il y a pas mal de trucs, et en vrai, la phrase est snap, on sent que le mec, il a envie, il y a un truc. On voit déjà, il y a pas mal de Disco Elysium dans cette phrase quand même. Donc, voilà, je vous passe, il arrive à se faire financer, il est à Tallinn, en Estonie, du coup avec son collectif Zaum, c'est pas encore un studio, vraiment son collectif Zaum, avec du coup ses proches, avec qui il a créé le monde d'Elysium, tout ça et tout. Ils vont ensuite se délocaliser en Angleterre, à Londres, puis à Brighton. Ils disaient que voilà, c'était beaucoup plus simple de développer le jeu vidéo en Angleterre qu'en Estonie. Donc il va trouver voilà, des financements avec des Estoniens. Je sais que pas mal de businessmen, des poteaux d'Estonie qui étaient chauds pour financer le projet. Et du coup, en 2017, le jeu est dévoilé sous le nom No Truce with the Furries, ou en français, Pas de trêve avec les furries. Et Dieu merci, il a changé le nom. Dieu merci, il a changé le nom pour l'appeler Disco Elysium. Jeu qui sortira du coup le 15 octobre 2019 sur PC et quelques années plus tard sur console. Et du coup, le jeu sort. Énorme succès critique. C'est pas un jeu qui a eu une sorte de reconnaissance tardive ou quoi que ce soit. Non, c'est le jeu sort. Et tout de suite, on parle voilà, de les choses qui sont dites tout de suite. C'est voilà, une narration exceptionnelle, un RPG qui vient vraiment revenir à la base des mécaniques de RPG en proposant vraiment une histoire qui est complexe. Il y a d'autres éléments que je pense qui sont plus intéressants si j'y reviens plus tard dans l'épisode. Mais du coup, ce qui est intéressant, je pense qu'on va commencer par la base quand même. Je pense qu'avant de parler de narration, de toutes ces choses-là, je pense que... c'est important, je pense, de définir vraiment le RPG, parce que c'est un genre dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé sur RNG, pas des masses, et je pense que c'est vraiment important de comprendre le RPG pour tout simplement mieux comprendre Disco Elysium. Si toi, Ulysse, tu veux par exemple nous parler de le RPG, qu'est-ce que c'est ?
Ouais, bah le jeu de rôle, comme on a dit, ouais, vis-à-vis du jeu de rôle papier et tout ça, c'est souvent des mécaniques où on incarne un personnage, on va développer ses compétences, un arbre de compétences, sa personnalité au travers de choix moraux, c'est narratif.
Mm-hmm.
Et y a pas mal de jeux assez connus, des RPG, voilà, des Skyrim, des Fallout, des... comment ça s'appelle, des Deus Ex aussi, un petit peu, qui est un FPS un peu RPG, mais plus avec un personnage fixe, The Witcher, c'est du RPG, les Final Fantasy, bref. Tout ça pour dire que du coup, là, ça peut prendre plein de formes différentes, on peut avoir des personnages très définis, ou alors c'est vraiment juste avec un personnage qui va être créé par le joueur, vraiment avec un menu de création de personnages, votre avatar que vous allez façonner de A à Z avec vos points de compétences. Et Disco Elysium, lui, il est très peu conventionnel. Au sens où, en fait, l'une des mécaniques du titre qui est la plus importante sur comment il aborde le jeu, déjà, c'est que c'est un RPG qui n'a pas vraiment de combat. Je trouve ça intéressant que dans la description que tu as dit, il évoquait des combats, du coup,
stratégiques et pro.
Voilà, c'est ça. Finalement, ça a totalement, on va dire, entre guillemets, disparu du jeu, au sens où il n'y a pas vraiment de confrontation physique. Il y a un moment, on va aborder qu'il y a une confrontation, mais c'est plus des jeux, des confrontations verbales, en fait. Et le jeu repose beaucoup sur ces dialogues. En fait, la mécanique principale, c'est qu'il y a 24 compétences réparties sur 4 arbres de talent, et chaque talent, compétence, a sa voix. Donc, en fait, vous avez votre jeu, qui est donc un jeu en vue isométrique, du vue du dessus. Et d'un coup, sur le côté, vous avez donc une boîte de dialogue en format colonne avec un défilement vertical Et dès que votre personnage a un monologue, dès qu'il se met à se parler à lui-même, on voit le texte qui apparaît, la voix qui parle à votre personnage. Et selon les compétences que vous avez sélectionnées, c'est ces voix-là qui vont venir en fait intervenir. Ça va être la compétence frisson, sang-froid, je sais plus ce qu'il y a d'autre, art dramatique, tout ça.
On va venir les définir un peu plus tard et tout.
Voilà. Et en fait, ces compétences, elles sont des facettes du cerveau. Voilà.
Ouais, voilà.
Tout ce qui est empathie, volonté, perception, tout. Elles interagissent avec le joueur et rendent le jeu en fait, vraiment introspectif. Genre, chaque choix a une influence sur la personnalité du détective.
Exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il met ces compétences-là à l'opposé de ce qu'on retrouvait dans les RPG classiques, là où de base, les compétences dans les RPG un peu classiques, c'était la force, la chance, l'éloquence, le charisme, l'agilité, ce genre de choses qui nous définissent. Là, Disco Elysium fait un choix vraiment assez unique, c'est que vraiment, il va venir en fait, définir toutes nos compétences en fonction un peu du coup de la psychologie du personnage en fait. Vous allez retrouver voilà frisson, genre dit comme ça quand je vous dis ouais la compétence frisson qu'est-ce que c'est ça paraît hyper flou. C'est un peu comme empathie. Empathie je pense que c'est un bon moyen par exemple vous avez une compétence qui s'appelle empathie et c'est votre capacité à tout simplement vous mettre dans les bottes de quelqu'un, c'est-à-dire à se mettre à sa place. Et en fait toutes ces choses là vont clairement servir la narration du jeu qui est un jeu d'enquête ce genre de choses donc. Ça vous permet tout simplement de vous mettre à la place des gens et donc imaginer par quoi ils sont passés, ce genre de choses, leur imaginer un futur, toutes ces choses-là. Mais vous avez des choses qui sont un peu plus physiques. Par exemple, vous avez endurance, qui est clairement votre cardio, on va appeler ça comme ça, votre capacité physique, votre affinité mécanique. Il y a une compétence qui s'appelle comme ça, je crois, affinité mécanique, c'est votre...
Affinité mécanique, instrument physique, ouais.
Instrument physique, voilà, vos capacités physiques, ce genre de choses. Donc... Il va reprendre voilà, des concepts de base du RPG, les compétences, et en faire des... Clairement, on n'avait jamais vu ça vraiment ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment définir la personnalité de Disco Elysium. C'est un jeu qui reprend beaucoup de mécaniques de base, comme les lancers de dés. Les lancers de dés, par exemple, c'est un truc qu'on retrouve vraiment dans les jeux de rôle papier. C'est quelque chose... Quand je vous dis que Robert Kurvitz était un nerd de base, c'est que voilà, dans les jeux de rôle papier... Très souvent, du coup, quand vous êtes face à une situation, par exemple, Ulysse est un archer elfe qui ouais, se bat contre un ours dans une forêt et il décide d'utiliser son arc pour abattre l'ours face à lui. Comme Ulysse est un archer, il est habile avec son arc. Et donc, il va faire un lancer de dés, je crois que c'est entre 0 et 20. Entre 0 et 20. Et du coup, pour battre l'ours, il faut minimum 10. Et du coup, Ulysse, par exemple, il va faire un lancer 7. Ah merde, c'est pas assez. Mais sauf que Ulysse a des capacités, a une affinité avec son arc et tout, peut-être qu'il est magique et tout, donc il va avoir un bonus de plus 4 sur son lancer, du coup 7 plus 4 égale 11, c'est un lancer réussi, Ulysse arrive à tuer l'ours avec... arrive à tuer l'ours, voilà, c'est clairement voilà, des mécaniques de lancer et ça va se faire voir dans Disco Elysium, clairement vous allez avoir des situations, et du coup votre build de compétences va être inégal, clairement, peut-être que vous allez être quelqu'un qui est socialement adéquat d'une certaine manière, socialement on va dire extraverti, donc vous allez être très éloquent, vous allez pouvoir faire preuve de beaucoup d'empathie avec les personnages, les comprendre leur psychologie, mais derrière, peut-être que physiquement, vous êtes un peu maigrichon, et que du coup, quand il s'agit d'ouvrir une porte, une porte qui est blindée, vous n'avez pas assez de force, tu vois, ou parfois il faudrait peut-être crocheter une serrure, voilà, je pense que c'est important de prendre le temps d'expliquer ces choses-là, parce que c'est toutes ces mécaniques-là définissent clairement le gameplay de Disco Elysium, mais du coup, Disco Elysium, de quoi ça parle? Si tu veux peut-être commencer avec la narration, contexte. Je pense le contexte, ouais.
Pour le contexte, en gros, ça va être un peu une partie très large, parce que je pense qu'on en parlait avec Swill, c'est un jeu qui est éminemment politique. C'est hyper important vis-à-vis de la narration, il y a énormément de politique vis-à-vis du contexte et du folklore. Et du coup, la façon de résumer un peu le jeu, c'est que en fait, ça se déroule dans un monde post-révolutionnaire, marqué par du coup l'échec des idéaux politiques, une révolution communiste, masoviste, si on prend les termes du lore. Et du coup, après donc, l'échec de cette révolution, écrasée par une coalition capitaliste, Revachel est devenue une ville, en gros, sous tutelle internationale. C'est un peu flou, on sait pas trop qui gère ça, c'est cette espèce de puissance bizarre et tout autour. Et du coup, c'est devenu un peu le symbole d'un monde où aucune idéologie ne triomphe vraiment.
C'est un monde à l'arrêt.
C'est un peu un monde à l'arrêt, ouais, c'est ça, en transition. Et du coup, ce qui est assez chouette avec ce contexte-là, et la narration, c'est que c'est un vivier, c'est une sorte de vivarium où plein de personnages se croisent. En fait, il y a une galerie de personnages qui est hyper variée et on les voit interagir de milieux sociaux différents avec des convictions aussi différentes. Et vous débarquez au milieu de tout ça Après, la plus grosse cuite de tous les temps, vraiment, ouais. En fait, vous jouez un détective, donc Harry Dubois.
Ouais, on spoil le nom, voilà, on, parce que sinon ça va être galère.
On spoil, mais c'est pas grave. Et en fait, vraiment, il se réveille dans sa chambre totalement fait. Et du coup, le personnage n'a aucun souvenir de la veille, de qui il est, d'où il est. Et ça va faire partie aussi de l'enquête, c'est qu'en fait, il y a un peu, entre guillemets, enfin, le jeu fonctionne, on va dire, sur deux enquêtes qui sont foncièrement le fait de résoudre un meurtre, qui est donc derrière le Whirling in Rags, qui est un hôtel dans lequel on se réveille, et de savoir qui on est, tout simplement. Le joueur va, comme le personnage, se dire « Bah ok, je n'ai aucune information sur le personnage que je contrôle, et je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, il est détective, d'accord. » Le jeu va vous pousser, du coup, à résoudre, comme une sorte de puzzle, bah, votre identité, qui vous étiez, pourquoi, finalement, vous voulez être enquêteur, et aussi pourquoi est-ce que vous voulez résoudre ce meurtre. Et c'est un peu la force de Disco Elysium, c'est de vous immerger dans un contexte où le joueur et le personnage sont sur un pied d'égal.
Ouais, c'est ce rapport-là hyper intéressant. Tout l'usage de l'amnésie, c'est quelque chose d'un gimmick, clairement, du RPG qui revient beaucoup. Parce que du coup, comme dans le RPG, on est censé définir notre personnage comme on a envie, c'est compliqué parfois dans les RPG de mettre en place un personnage qui a déjà, on va dire, un background ou ce genre de choses, parce que ça met le joueur et le personnage pas sur le même stade d'égalité un peu. Ils sont clairement inégaux. Et du coup, l'amnésie, c'est souvent un gimmick qui vient parce que ça permet tout simplement de mettre le joueur et le personnage sur le même brin d'égalité. Très souvent dans les RPG, il y a le délire de on joue un nobody, clairement un mec que personne connaît, qui est un random. Et du coup, du jour au lendemain, et ben, du coup, il n'y a rien qui le définit. Du coup, ce que vous allez faire de ce personnage-là, c'est ce qui va le définir dans le futur. Est-ce que voilà, votre personnage, il arrive, je sais pas, à brandir Excalibur et du coup, ça devient un héros. En fait, vous définissez votre personnage un peu comme vous avez envie. Le truc avec Disco Elysium, c'est que vous arrivez dans un monde où vous incarnez un personnage qui est déjà défini par son passé, en fait. Et le truc, c'est que l'usage de l'amnésie, il permet un peu de mettre Harry et le joueur sur le brin d'égalité parce que, forcément, à un moment, le passé, il va revenir au galop, tu vois. Il va revenir au galop et du coup, vous allez devoir vous défendre en mode « Ah, j'ai fait ça !»« Ah, merde, j'ai fait ça !» Et toi, du coup, le joueur, bah, il découvre que Harry, je sais pas, genre, il a... On va y revenir plus tard, mais il a fait des dingueries, tu vois, dans le passé. Il a fait des dingueries. Le joueur découvre ce genre d'éléments, et un peu comme Harry, du coup, parce que lui, il est vraiment dans un état d'amnésie qui est fatal, qui est vraiment balèze.
Total.
Et du coup, lui aussi, il découvre un peu comme le joueur ces situations-là. Par exemple, il oublie totalement le contexte socio-politique, socio-économique de Martinez, qui est le quartier dans lequel on est. Il oublie totalement tout ça, et du coup, bah, ça permet de justifier narrativement le fait que Harry demande du coup, mais c'est qui ce mec ? Et du coup, bah, là, le jeu peut justifier, du coup, on va dire, un lore dump, vous expliquer, ok, ça c'est tel mec, il a fait ça, ça c'est tel syndicat, machin chouette, tel book, tel book. Ça permet, et c'est fait de manière vraiment, vraiment, c'est manié à la perfection dans Disco Elysium. Vraiment, la manière dont c'est amené, donc ça permet, voilà, de créer des moments d'humour. Vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très comique par moments.
C'est ça, ouais. Bah, c'est un peu ce truc-là aussi où... Parce que là, quand on en parle un peu, c'est un univers qui est très dense, mais qui est aussi assez sombre, en fait, quand on évoque un peu Disco Elysium au premier abord. C'est un truc où, genre, chaque bâtiment, chaque rue, chaque perso, en fait, a une... En fait, c'est un peu une espèce de collection de galeries de personnages et de lieux en ruine. C'est tout le temps un peu ce truc-là où quand on va aller parler à un personnage, voir une librairie, voir un prêteur sur gage, ou dans l'autre zone, t'as une zone à un moment donné de Revachol qui est un peu plus délabrée. C'est à chaque fois une sorte de réminiscence. En fait, comme le passé de Harry, c'est une sorte d'héritage qui te rattrape et auquel t'es confronté, et que tu peux explorer ou non, en fait. Mais du coup, ça peut être assez lourd, de par le fait que le jeu, on parlait de la narration, mais en gros, c'est un jeu très littéraire, de par ses inspirations déjà. C'est influencé de ouf par de la littérature du style Dostoïevski, Pynchon, Germinal de Zola. Parce qu'il y a beaucoup, quand vous regardez la page Steam, vous pouvez voir les influences du coup, bah, de l'auteur et du studio. Et ils citent donc ça pour la littérature. Pour l'audiovisuel, ils vont citer True Detective, The Shield, The Wire. Et du coup, voilà, ça peut être des œuvres très terre-à-terre, très réalistes, qui vont essayer d'aller vraiment dans les méandres et les abysses, en fait, un peu de l'âme humaine et de comment ça va se travailler. C'est très nihiliste par plein d'aspects. Et malgré tout, on va avoir des moments d'humour, des moments d'absurde et d'émerveillement.
Je pense avant de partir dans les éléments là, viens, on définit l'enjeu narratif, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe au début du jeu, en fait, c'est quoi l'intérêt du jeu, parce que là on vous explique tout ça, mais c'est quoi le délire, si tu veux que je le fasse, tu le fais comme tu veux.
Vas-y.
Ok, en gros, bah du coup, vous vous réveillez, giga cuite, tu joues Harry Dubois, un enquêteur blanc, 43 ans.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il est pas giga beau gosse, mais voilà, il est... Ouais, c'est Harry, tu vois.
Il a du charme.
Il a du charme, il a un truc. Du coup, enquêteur pour la RCM, qui est du coup la police de Revachol, il est inspecteur, enquêteur, et vous vous réveillez dans l'hôtel, vous descendez, c'est pas ce qui se passe, vraiment, vous êtes du père, vous croisez une meuf qui s'appelle Clagé, elle est là, c'est les premiers dialogues qu'on a du jeu, tu comprends pas trop la meuf, elle est un peu mystérieuse, elle te plaît un peu, t'hésites à toquer à la porte, tu descends, tu vois un mec qui s'appelle Kim. Bonjour monsieur Kim, oui je suis monsieur Kim, que je vais arrêter. Kim Kitsuragi, bref, apparemment c'est ton associé qui travaille avec toi sur une enquête, et en fait t'apprends que derrière l'hôtel dans lequel tu te trouves, il y a un terrain, et surtout dans lequel il y a un arbre auquel un cadavre est pendu, et ça fait quelques jours qu'il est là, il a toujours pas été retiré. Et c'est l'élément déclencheur du jeu, en fait. C'est la quête principale du jeu, c'est ça. C'est-à-dire, vous enquêtez sur une bavure qui a eu vraiment une sorte de passage à tabac d'un mec qui s'est fait tuer, pendu à un arbre, et vous devez trouver qui a fait ça. Le problème, c'est que du coup, on a un contexte socio-économique qui est galère, qui est vraiment... tous ces éléments-là vont te mettre des bâtons dans les roues dans la progression de ta quête. Et du coup, le jeu, c'est un peu ça, mais le jeu se définit pas spécialement que par sa quête principale, c'est la quête principale, mais c'est un jeu qui clairement aussi se nourrit beaucoup des quêtes annexes qu'on va trouver. Et pour vous illustrer un peu l'ambiance, déjà, Ulysse l'a fait un peu, mais vous imaginez, voilà, on est dans... Je sais qu'en termes d'inspiration, c'est beaucoup inspiré de l'enfance du coup des développeurs de Zaum, des premiers créateurs de Zaum, c'est-à-dire... des gens qui viennent de Tallinn, en Estonie, dans les années 90. Mmh. Je vous dis ça, moi non plus, je sais pas à quoi ça ressemble Tallinn dans les années 90, mais ils ont également donné voilà, cette ambiance, voilà, ils ont dit voilà, un endroit pauvre, ils ont comme inspiration la France, la commune de Paris en 1870, pareil, dur à imaginer, mais voilà, on est vraiment dans une Europe sale, dans une Europe où la lingua franca, le concept de la lingua franca, c'est-à-dire la langue pour ces gens-là, c'est le français. C'est-à-dire, c'est un monde où, par exemple, parce que Disco Elysium est un monde où l'Amérique n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis. Mais en fait, du coup, ce qui fait que, bah, comme il n'y a pas des États-Unis, il n'y a pas, de puissance américaine et du coup d'expansion de la langue anglaise à l'international. Là, on est dans un jeu, ou dans un univers plutôt, où en fait, la langue du monde, un peu, c'est le français. C'est le français. Et du coup, c'est un jeu qui du coup va avoir beaucoup d'inspiration, comme tu l'as dit, Émile Zola, ce genre de choses. J'ai parlé de la commune de Paris en 70. Et du coup, voilà, c'est très froid, c'est très pauvre. Comme du coup, voilà, on a une ambiance voilà, de grève, de situation socio-économique à l'arrêt. C'est clairement une ambiance qui est lourde à Martinez. Mais du coup, voilà, cette quête principale, elle est lourde, parce qu'on est face à une situation voilà, atroce d'un soldat. Qui s'est fait totalement visuellement, c'est très fort. On voit qu'il y a un gamin en plus à côté qui s'appelle Kuno qui lui jette des pierres dessus. C'est-à-dire, on est dans un monde où ouais, il y a un cadavre qui peut rester pendu à un arbre pendant quelques jours. Tout le monde s'en fout.
Ouais.
Et tout le monde est en mode truc. Et en fait, vous êtes à l'arrêt parce que on est dans un contexte de grève. On a les dockers, les gens qui travaillent sur des ports, qui sont syndicalisés. Qui sont sous la tutelle du boss du syndicat qui s'appelle Everard Clair, qui est un personnage très important. Et du coup, le problème, c'est que vous allez enquêter sur ce syndicat-là pour voir ah, est-ce que c'est le syndicat qui a pu faire ça ? Est-ce que c'est... Vous commencez... Au début, vous n'avez pas beaucoup de pistes. Donc du coup, vous dites, OK, peut-être que la grève, il y a un lien entre les deux. Et tout le jeu, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, tout le monde va vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Vous allez galérer à résoudre cette enquête. Et le jeu, il en a conscience et il fait ça exprès pour que vous allez... vous balader, rencontrer d'autres personnes, et du coup, le ton glauque et vraiment vénère de la quête principale, il est vraiment allégé du coup par les rencontres qu'on peut faire avec d'autres personnages, et du coup par des quêtes annexes qui, elles, peuvent être plus légères, et beaucoup plus clairement vous donner, tout qu'on est dans un contexte où du coup Harry est totalement amnésique, on l'a dit, mais qui du coup il est hyper curieux, il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, il a envie de rencontrer tous ces gens-là, toi par exemple, il y a des quêtes, une quête annexe, peut-être t'as...
Ouais, bah c'était par exemple sur le côté un peu absurde, mais c'est même pas vraiment une quête annexe, mais il y a le coup des flippers cachés derrière l'hôtel, où il y a une pièce qu'on essaie de découvrir. Il y a la quête de la librairie, où on pense que la librairie est hantée, et du coup on creuse un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Et finalement, c'est plus léger que ça, c'est juste qu'il y avait justement un studio de développement de jeux de rôle, des éléments comme ça que je trouve un peu léger. Moi, bon, après, c'est vraiment plus des touches d'humour pour que le jeu, enfin, là, c'est un peu évident. On parle du coup de Disco Elysium, mais l'une des plus grosses forces du titre, c'est son écriture. Il est reconnu pour ça, et c'est ce qui, je pense, fait que même si c'est à peu près sec quand on l'aborde, par exemple, je trouve que les premières heures sont vraiment compliquées, parce que, ouais, tout, comme a dit Swill, tout le monde vous met des bâtons dans les roues, l'enquête est rame du cul. En fait, c'est ça, c'est que comme vous êtes certes amnésique, mais vous avez eu un impact sur ce monde, sur Revachol, donc vous avez une réputation déjà. Et si vous prenez l'hôtel dans lequel vous résidez, ouais, les gens vous trouvent pas non plus incroyable, vous êtes pas, vous avez pas une réputation de ouf. Et du coup, on va vraiment vous prendre avec ce prisme-là, et c'est très très compliqué de progresser et de, entre guillemets, changer l'image qu'on a de vous. Ou pas, hein, sauf si vous voulez vraiment l'épouser, être un flic vraiment soulard, alcoolique, qui prend de l'AC, du speed, voilà. Vous pouvez. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, vous progressez donc vite fait, mais très lentement avec ça. Et il y a des petits éléments par-ci par-là, genre des dialogues, des moments avec Kim Kitsuragi, du coup, votre associé, qui sont genre hyper drôles. Par exemple, moi je sais que si on va, enfin, soit on va spoiler, on va parler du jeu, l'idée c'est de vous donner envie d'y jouer, mais... Mais si vous y avez joué, c'est aussi d'aller un peu plus profondément dans l'analyse. Et moi, je sais que la façon dont on déroule les actions d'Harry vis-à-vis juste de son precinct, genre l'idée que quand vous avez donc la voiture de Kim, vous appelez votre le commissariat, en fait, et d'un coup, c'est genre... vous allez vous remarquer que vous avez pas d'arme de service. Du coup, tout le monde se fout de votre gueule en mode « Eh, classique Harry Dubois, tu vois, le mec a perdu son arme et tout. » D'un coup, c'est genre... votre insigne, pareil. Et vous pouvez choisir ou non de le dire, de dire « Bah, en fait, moi, j'ai plus mon insigne non plus. » Et après, quelques heures plus tard dans le jeu, vous allez découvrir une nouvelle zone avec une voiture qui est dans un lac, et vous aviez trouvé les traces qui menaient à la cour du pendu de cette bagnole. Du coup, vous dites « Putain, c'est ouf, peut-être que le mec qui l'a buté, il est reparti en pleine trombe avec la caisse. » Mais vous êtes « Non, c'est une voiture du commissaire. Non, c'est sûrement même ta voiture, Harry. »
Et là, « Oh, putain de merde, c'est ma caisse !»
Je me rappelle, ça, genre le moment où le perso est en mode « Putain !» Et d'un coup, tu retrouves ton insigne dedans et tout. Enfin, non, c'est la façon dont ça déroule, en fait. Des éléments narratifs est super, et il y a des moments comme ça où vraiment pendant une ou deux heures, le jeu va aller hyper vite, enfin c'est hyper gratifiant, c'est un élément en amène un autre et tout, et des fois vous stagnez, et c'est frustrant, franchement. Moi je sais qu'il y a des moments dans l'enquête, quand on est confronté aux dockers qui se font un peu un bloc uni, où globalement ils vont dire bah en fait ouais on l'a tous tué, c'est nous qui l'avons pendu et tout, donc qu'est-ce que tu vas faire, tu veux nous arrêter ?
Alors qu'on est persuadé que c'est l'œuvre d'une seule personne, c'est...
Et du coup, ils se cachent tous les uns derrière les autres, et en fait, on peut rien faire, on est qu'avec Kim, comment il s'appelle ? C'est le docker le plus vénère.
Titus Hardy.
Ouais, qui sort, il fait 1m80, un peu stock.
Ouais. Je sais comment il parle, du terme.
Donc on se dit, on va peut-être pas aller lui chercher des noises. Et je sais que ce passage-là, moi, c'est un passage où j'ai vachement vite sur place. Genre, franchement, j'ai dû avoir deux heures où je me dis, putain, j'ai aucun élément, j'arrive pas à gratter, mais lancer, ils traînent.
C'est frustrant parce que tu te dis, t'es persuadé que c'est eux, et que, ok, même si c'est pas eux, ils savent des trucs, tu vois. Ils savent des trucs, et du coup, t'es là, tu te dis, tu cherches un élément, c'est pour les embarquer, les arrêter, et t'arrives pas pendant une heure, t'essayes de leur tirer les verres du nez, sauf qu'ils sont préparés, il y a une avocate qui est envoyée, du coup, par Everard Clair, qui est du coup le boss du syndicat, qui clairement protège ses boys, tu vois, clairement, et du coup, ils sont ensemble. Et c'est un moment hyper intéressant de narration où parfois vous allez faire des sessions où clairement manette en main, vous allez juste appuyer sur croix, choisir vos dialogues, et ça paraît chiant, ça paraît lent, ça paraît truc, mais il y a aucune histoire qui est écrite comme ça, en fait. Il y a peu de jeux qui peuvent te laisser assis comme ça tranquille juste à lire, mais on est dans une ambiance d'enquête folle.
Ne quittez pas, vous écoutez RNG.
Et du coup, on parle du fait de faire du surplace, c'est qu'en fait, ce surplace-là, il est aussi dépendant de comment vous allez manier votre personnage au niveau de ses idéologies, de ses convictions. comme on l'a dit, il est amnésique, donc en fait, il peut totalement choisir d'être masochiste, communiste, ou au contraire un fasciste, raciste, un mec qui va être en mode
Révachol, ou Révacholien. Il peut être ultra-libéral aussi, en mode aller Wild Pines et toutes les entreprises.
Exactement. Et en fait, c'est un des éléments qui est hyper intéressant avec le jeu, c'est que au premier abord, il a beaucoup de recul sur plein d'idéologies. Vraiment, ça, il expose en fait un système et une ville qui est en proie à plein de systèmes, qui a été traversé par beaucoup de systèmes. En soi, le communisme, ça a été un échec historique. Le libéralisme, il y a un côté vide moral. Le fascisme, l'haine et la nostalgie un peu toxique. Et on voit aussi l'ultra-individualisme, où t'as des personnages vraiment qui sont centrés sur eux-mêmes et qui veulent pas vraiment
moraliste,
avoir d'impact.
Moraliste, en mode, ils veulent être neutre, sauf que c'est un... Le jeu considère ça comme un parti pris. Et c'est hyper intéressant.
Voilà. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'en gros, le cadre et l'aliénation qui affectent nos personnages et les pensées qu'il va y avoir, en fait, ça définit un système qui est fait pour asservir, ensauvager, et donc pousser les habitants à la faute morale. Et donc, même si au premier abord, on peut se dire « Ah, c'est un jeu apolitique », c'est tout sauf apolitique. C'est un jeu qui vraiment vous dit de prendre une décision, de faire des choix, de prendre position. Et c'est ce qui fait aussi que dans les dialogues avec, par exemple, Evrard, les syndiqués, si vous êtes, entre guillemets, plutôt à gauche, vous allez pouvoir essayer de faire patte blanche, sympathiser avec eux. Là où au contraire, si vous êtes plutôt sur un système en disant « Non, je suis plutôt capitaliste », sur un rapport de « Il y a l'ordre, la loi à respecter », et je suis une force d'autorité à moi tout seul, ça, forcément ça va encore plus gripper, mais avec d'autres personnages, inversement, ça sera plus
avec
simple
Joyce
de sympathiser.
Avec Joyce Messier qui représente Wild Pines, qui est du coup l'entreprise auquel appartient les Dockers, et du coup, voilà, ça, par exemple, elle vous dit venez sous ma tutelle un peu, et, mais est-ce que voilà, moralement, vous avez envie de rejoindre l'entreprise, c'est...
Ouais.
Moralement, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu le côté de ça apporte certaines choses pour l'enquête, ça vous permettrait de faire avancer l'enquête d'une certaine manière, mais moralement, est-ce que c'est juste selon vous ? Surtout c'est que l'aspect politique du jeu, excuse-moi, je continue, par exemple, truc tout bête, hein, mais pendant les Game Awards 2019, le jeu a gagné pas mal de prix. Il n'a pas gagné le jeu de l'année, mais je sais qu'il en a gagné pas mal. T'as les développeurs qui sont montés sur scène, pas Robert Kurwitz, il était absent, mais Alexander Rostov, Mike Mesnit, pas mal de développeurs, ils ont remercié pas mal de gens, et en fait, ils ont fini sur « Merci à Marx et Engels de nous avoir donné une éducation politique. » Le jeu est évidemment politique, en fait. C'est... Les développeurs s'en cachent même pas. Donc voilà, c'est de continuer.
Justement, vis-à-vis de ça, des choix de dialogue et tout, donc il y a les compétences qu'on parlait, donc avec Frisson, tout ça qu'on peut développer pour avoir donc une voix intérieure, mais il y a aussi les réflexions, les pensées.
Tiroir à réflexion.
Voilà, le tiroir à réflexion, où en gros, c'est une... ça aussi, c'est assez unique, en fait, comme système de compétences, on pourrait dire. Où le jeu propose donc d'avoir des pensées que le détective peut rechercher,
assimiler,
comme nostalgie de la révolution, l'adhésion à un système capitaliste. Il y a un moment donné, je crois qu'il y a une réflexion, c'est genre truc suprémaciste des races, un truc comme ça. Et en fait, chaque réflexion va affecter votre personnage sur ses choix de dialogue. Et donc au-delà même des compétences, s'il est plus ou moins fort, empathique et tout, il aura du coup des réflexions hyper précises et un point de vue sur le monde. Ou d'un coup, si vous parlez, à un mec qui est du coup adepte de Mazov, Craig Mazov, donc le communisme dans le jeu, vous allez vous dire, ouais, de ouf, en effet, on va refaire le monde, il faut abattre le capitalisme, mon frère, tel capital et tout, c'est faut niquer tout ça.
Quand vous avez du coup la réflexion, vous avez assimilé la réflexion de « je suis un communiste », à chaque fois, vous allez faire du coup une remarque que le jeu considère de gauche, vous allez gagner, je crois, $2, un truc comme ça, je crois, $2. Et ça vous permet de vraiment définir la personnalité de votre build, et surtout que ça permet une rejouabilité de dingue, en fait. Parfois vous allez faire une autre run où vous allez fuck it, je vais faire un build fasciste, je vais être un giga raslar sur cette run, et du coup vous allez avoir des réflexions qui du coup vont être propres à votre personnalité de facho, et voilà. Non, le tiroir à réflexion, c'est vraiment génial, c'est vraiment
Et en fait ça, c'est que le gameplay, ça paraît très simple, parce qu'en soi, c'est du point and click, on se déplace, on interagit avec des éléments, on fait des dialogues. La boîte de dialogue, c'est un élément qui encore plus pousse la comparaison avec une œuvre littéraire, en fait. Si vous avez un roman sur votre droite de l'écran, vous allez lire ça, vous allez entendre une voix off. Il y a un comédien, en fait, de doublage, qui fait toutes les voix, qui interprète chacune des facettes de votre personnage, de sa personnalité. Et c'est genre hyper immersif, parce qu'encore une fois, c'est de l'introspection. Et au-delà du fait que vous lisez du coup dans votre boîte de texte à droite les actions, ça fait un déroulé très Donjons et Dragons, où d'un coup c'est genre vous faites un lancer de dés ou autre, et genre vous arrivez dans tel endroit, vous débloquez, vous découvrez un objet, Est-ce que vous ouvrez la boîte, etc., etc.
Ouais. Par exemple, il y, y a une scène que moi, j'adore dans le jeu, et je vais essayer du coup de la paraphraser d'une certaine manière, de la jouer un petit peu, comme ça, ça vous donne un peu l'idée de à quoi ça ressemble, une scène dans, dans Disco Elysium. Vous êtes près du cadavre, donc à l'arrière de l'hôtel, et vous trouvez une poubelle. Sans trop hésiter, vous décidez de l'ouvrir à l'aide d'un pied de biche, et vous tombez sur votre carnet de travail, une sorte voilà, de gros dossier comprenant des informations du coup, importantes sur vous et votre travail d'enquêteur. Et à un moment, vous tombez sur un compartiment en plastique qui est collé à votre dossier. À partir de là, votre logique s'active et vous explique que ce compartiment sert à protéger ce qui s'y trouve. Et donc, s'il y a quelque chose à l'intérieur, il est sans doute très important. T'arrives pas à voir à travers le plastique, donc tu décides de l'ouvrir. Le jeu te propose donc un lancer dès qu'il prend en compte ta stade d'interaction. Qui représente tout simplement, on va dire, l'agilité que t'as avec les objets. Et t'as tout simplement ta capacité à interagir avec. La difficulté du lancer, elle est considérée comme médium. En gros, pas besoin d'être ingénieur pour ouvrir le compartiment, mais quelqu'un avec deux mains gauches pourrait par magie l'enfoncer et le bloquer. Tu jettes ton lancer. Réussi. Tu décides du coup voilà, de passer tes mains sur le compartiment. Tu vois une sorte de fissure, tu décides de tordre le plastique légèrement et sous la pression, clac, le compartiment s'ouvre. Et là, t'es nez à nez avec deux tickets et une carte postale. Bon. Sur les tickets, il y a le dessin d'une pieuvre. Tu sais pas trop ce que ça signifie, puis tu te souviens qu'il y a un zoo à l'est de Revachol, donc, peut-être que c'était des tickets pour le zoo. Tu les reposes, puis tu retournes la carte postale. Une feuille y est collée, son papier est fin et le bruit produit te rappelle le son que peuvent faire des feuilles mourantes. Une violette est collée sur la feuille et des petits dessins de fleurs sont disséminés aux quatre coins. L'odeur qui s'en dégage est celle du chewing-gum, goût abricot. Là, ta capacité de perception sensitive s'active et facilement tu décèles même une touche de cannelle. Tu sais pas trop pourquoi, mais ça te rappelle la fin d'un été. Bref, tu décides de lire la lettre et l'écriture t'est familière. La légèreté du trait est celui de la main d'une femme. Tu décèles facilement la tendresse qui a résidé dans son geste. Tu serais prêt à parier qu'elle l'a écrit avec le sourire. Tu commences à lire la lettre, elle dit « Harry, je voulais t'écrire quelques mots que tu pourrais lire à ton réveil. Peut-être que cela te ferait plaisir. » À ce moment-là, t'as la manifestation de ta volonté s'empresse et te demande de poser immédiatement la lettre. Tu hésites parce qu'elle a dit que ça allait te faire plaisir, donc tu continues à lire. À cet instant, un frisson traverse ton corps. Une sensation de froid qui commence à te faire trembler. Tu ne lâches pas la carte une seule seconde et tu lis ceci. Chaque matin, quand je m'éloigne du lit et que tu es toujours endormi derrière moi, je ressens dans ma poitrine une légère tristesse. Et elle grandit à chaque pas que je fais. Lorsque j'atteins la station-service, elle me submerge totalement. Et je sais qu'elle restera jusqu'à la fin de l'après-midi quand je sortirai de la 42. Et que je serai de retour près de toi. Chaque pas que je fais vers toi est plus léger que le précédent. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu te rencontrer. Je n'arrive pas à croire au bonheur que je ressens avec toi. Tu as une âme vaste, si vaste, et j'y reviendrai toujours, toujours, toujours. À cet instant, tu ressens l'air aspiré en dehors de tes poumons. Tout autour de toi, tout devient sombre. Des petits points blancs apparaissent. La lettre s'échappe de tes mains, et ton corps t'envoie un signal. Non, non, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et tu finis par t'évanouir. Voilà, c'est un peu à quoi ça ressemble. Bon, j'ai pas les capacités de... du narrateur qui est un mec qui a une voix hyper suave, qui est un musicien de jazz. Et là, si vous avez entendu sa voix, vous savez de quoi je parle. Il a vraiment une voix vraiment prenante. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est
ça. C'est unique en fait. C'est vraiment l'idée que ouais, c'est avoir un personnage comme ça qui est en vrai une figure existentialiste. Genre, il y a un peu ce truc où. Le fait est qu'il est vraiment genre... il doit recréer un sens à sa vie après l'amnésie et que du coup, en tant que joueur, on déroule encore une fois genre plein d'éléments au travers d'interactions, de décors. En fait, l'aspect enquête du jeu est tellement riche et c'est ça qui est assez captivant en fait et qui vous pousse à jouer. C'est que si on voulait en parler là dans RNG, c'est que c'est un RPG, comme on l'a dit, très peu conventionnel, mais aussi parce que ça fait partie de ces jeux, je pense, qui vous ouvre les horizons du jeu vidéo. C'est que vraiment, c'est une facette du RPG qu'on n'a pas vu, du point and click qu'on n'a pas vu. Il y a 2-3 défauts, donc le côté point and click, par exemple, c'est assez sec, que ce soit clavier souris ou manette, vraiment, les déplacements, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf pour se déplacer, c'est un peu lourd. Et aussi, peut-être qu'il y a un ou deux choix, notamment, j'en parlais hier avec Swill, je crois qu'il y a une réflexion pour arrêter d'être alcoolique, vraiment, c'est genre devenir sobre.
Mmh.
Et vu l'importance de la gueule de bois et de l'alcoolisme en fait de Harry vis-à-vis de son personnage, de comment ça a affecté ses relations, c'est dommage que ça n'ait pas un impact plus grand sur l'histoire. On sent que c'est à peu près anecdotique si vous développez cette réflexion qui prend du temps.
Mmh.
Mais c'est vraiment là où on grappille, quoi. C'est genre, il y a deux éléments qui me sont venus en tête. Le reste, en termes de d'ambiance, vraiment la musique, on en parlait déjà avec Rétan en disant putain, la musique. Mais là, c'est pareil, c'est quand vous débarquez juste dans Rêve, quand vous sortez du Whirling in Rags,
Il y a un peu des sortes de quelques notes qui viennent à l'horizon, il y a un côté un peu d'espoir, et la musique change en fonction de l'heure de la journée.
Ouais,
et...
c'est fou.
C'est brillant.
Et il arrive à caler comme ça des cadres parfois qui sont tellement somptueux. Mmh. Moi, je sais qu'il y a un moment qui m'a énormément marqué. C'est la seule fois, je crois, en plus, où tu vois Kim Kitsuragi fumer une cigarette quand vous rentrez à l'hôtel la fin de la première journée, en fait, d'enquête. Vous êtes un petit peu encore dans le trou, la tête dans le cul. Et du coup, à un moment donné, vous dites, vas-y, bon, bah, on va faire un peu une sorte de récap de la journée.
Avec notre associé.
Avec Kim sur un balcon de l'hôtel pour vous poser. Et Kim sort une cigarette et dit juste, le soir avant de dormir, j'en fume une. Je fume jamais la journée, je fume pas en général, mais vas-y. Là, c'est mon petit moment, ça me permet de me détendre. Et vous passez en revue, du coup, tous les premiers éléments de l'enquête. C'est-à-dire que, bah, ok, il y a un cadre qui est purulent, qui est pendu, du coup, dans la cour. Il y a un gamin Kuno qui est un enculé.
Défoncé au crack et au speed.
Le mec, il a 12 ans et vraiment,
Le plus dur à comprendre psychologiquement. C'est le boss de fin, en fait, Kuno.
Tu parles de lui à la troisième personne.
Shout out à Kuno, ouais.
Et c'est compliqué, en fait. Et vous êtes là un peu perdu dans ce monde, en fait, qui est quand même aussi éloigné un peu d'une autre, où on sait pas trop la politique, en fait, intrinsèque du titre. Et la personnage que vous avez vue, elle est hyper étrange. Donc, il y a des moments comme ça, un peu des moments suspendus, que le jeu arrive à trouver, et notamment au travers d'un personnage, celui de Cindy, où je sais qu'il y a un moment qui a beaucoup marqué Swill vis-à-vis d'une quête annexe, que je vais développer.
Ça va me prendre vraiment du temps, je crois que c'est limite, on va finir là-dessus. Parce qu'en fait, il y a une longue quête. Je sais pas si toi, t'as peut-être un autre élément que tu veux.
Moi, ce qui est amusant, c'est que j'ai pas eu cette quête-là. Je sais que tu vas parler du coup de Esteban et Ulix.
Okay.
j'ai pas eu cette quête-là. Je trouve ça hyper intéressant quand on en parlait, que tu me dises pourquoi toi, elle t'a marqué.
Bah, en fait, c'est très simple. En gros, dans le jeu, si vous commencez à vous considérer comme un communiste, en fait, le jeu, il va calculer le nombre de fois où vous faites des remarques de gauche, de moraliste, de libéral, tout ça et tout. Et en gros, il va commencer à vous donner des points. Et en gros, quand vous allez récolter plus de points communiste que d'autres idéologies, le jeu va vous proposer en fait une quête qui est du coup de reformer un groupe politique communiste. En fait, il faut aller à la recherche, voilà, du coup vous sentez comme un communard, il faut que j'aille trouver des camarades, en fait. Et donc le problème, c'est que vous êtes dans une ville où on vous a dit que le communiste est mort, il n'y en a plus, mais vous avez des doutes, donc vous commencez à enquêter. Vous allez voir un mec qui s'appelle Colmi Maniana. Les noms ils sont barges dans le jeu d'ailleurs. Et du coup vous allez voir Colmi Maniana. Et du coup, c'est un mec qui est clairement de gauche et tout. Donc vous dites, lui, peut-être il sait quelque chose. Je vais skip. En gros, vous enquêtez et vous trouvez du coup un personnage qui s'appelle Cindy. Il s'appelle Cindy the Skull. En français, c'est la cabocharde. Et c'est un personnage qui déteste les keufs parce qu'elle est radicalement à gauche. Elle est en mode, elle fait que de vous traiter de cochon, de porc et tout.
Ouais.
Et en fait, elle est là, elle fait du vandalisme. En fait, elle peint sur des murs. Elle a cet art-là, on va dire, purement provocateur et tout. Et vous allez voir Cindy, vous lui dites, est-ce que t'hébergerais pas des gens derrière tout ça et tout. Et je skip parce que c'est long, mais en gros, elle vous dit oui, revenez à 22h ce soir-là. Et j'avoue, il y a des communards qui traînent et tout. Donc vous revenez à 22h, vous toquez à la porte. Colmi Maniana vous a donné, je crois que c'est un mot de passe, du coup vous dites le mot de passe. Et vous passez, et en fait vous tombez sur Esteban et Ulix.
Okay.
C'est un peu genre le RNG de Disco Elysium, c'est deux mecs, parce que Esteban me ressemble un peu et l'autre il s'appelle Ulix. Et c'est vraiment deux mecs, en fait, ils ont un club de lecture. Ils ont un club de lecture dit communiste, en fait. Et leur délire, en gros, c'est les théories masovistes, Krasmazov, on l'a dit, en gros, c'est l'équivalent de Karl Marx dans le monde de Disco Elysium. Et en fait, c'est deux universitaires, et en fait, ils ont un club de lecture, et vraiment, c'est clairement ouais, des intellectuels, des mecs qui clairement font un peu de la branlette intellectuelle, ils sont là, ils se retrouvent, ils parlent de livres, de théories qui sont farfelues, je vais revenir dessus après, parce que c'est barjot. Et en fait, leur but, c'est de cultiver la conscience révolutionnaire. Donc voilà, c'est deux binoclars qui sortent d'université, qui se retrouvent chaque soir à 22h pour parler voilà, de théories en tout genre. Et ce qui est intéressant, c'est que, je lâche ça, vous allez comprendre plus tard, dès qu'on les rencontre pour la première fois, ils essayent de faire une structure, une sculpture en allumettes. Et à chaque fois, forcément, cette allumette est fragile et elle fait que de s'effondrer à chaque fois. Et en fait, vous commencez à parler avec eux. Et en fait, il vous dit, ok, tu veux rejoindre notre club, il faut que tu passes un test, il faut que tu lises un livre. En gros, voilà, ils sont clairement dans une sorte de gatekeeping un peu. Ces deux mecs qui sont quand même assez méprisants vis-à-vis des autres intellectuels. Et du coup, ils parlent de différentes écoles de masovistes. Et eux, c'est les inframatérialistes. Je vais en revenir dessus plus tard parce que c'est hyper important. Mais il y a une école que genre, je suis obligé de raconter parce que je trouve que déjà, c'est très drôle. C'est l'école des éconoclars. C'est des masovistes. C'est en gros une école du communisme dans lequel, en fait, c'est des mecs, ils sont matrixés par les haricots. Genre vraiment, ils kiffent parler d'haricots, compter les haricots, mais par-dessus tout, ils créent des modèles économiques pour prédire le nombre d'haricots qu'il y aura dans le futur. Et en fait, ils prônent une sorte, simplement, en gros, c'est clairement des centristes, en fait, d'une certaine manière. En fait, ils prônent une sorte de transition progressive vers le communisme par le biais d'une modernisation économique, en fait. Elle serait soigneusement gérée, plutôt que, voilà... Pour eux, en fait, on peut aller vers le communisme autrement que par la révolution sociale, en fait. Et en gros, voilà, c'est des mecs qui pensent que c'est des technocrates, en gros. Grâce à la technologie, grâce à nos moyens de prédire le futur, il y aura des haricots pour tout le monde et donc pas besoin de faire la révolution pour qu'il y ait le communisme. Ouais. Et c'est vraiment, c'est purement ironique, genre vraiment, c'est vraiment bête, mais le délire des haricots, moi, me termine. Et en gros, dans tout ça, il y a Cindy, en fait. Il y a Cindy qui est à l'avant, et en fait, Cindy, elle est décrite à un moment, notre personnage, j'ai dit, ouais, pourquoi vous acceptez pas Cindy dans votre groupe de lecture et tout? Et Cindy, elle est décrite en fait comme une auxiliaire idéologique. Et en fait, il supporte son, on va dire, son art, son esthétique qu'il considère comme antilibérale, mais en fait, juste parce qu'elle refuse d'en faire un essai écrit, tu vois, une sorte de, voilà, d'essai de son art, il la refuse, et c'est clairement quelque chose de très méprisant. Il considère qu'intellectuellement, elle n'a pas les capacités pour rejoindre leur groupe et du coup faire part de la conscience communiste. Et. Du coup, il y a clairement une sorte de mépris qui est de Stéban et Ulix envers Cindy. Et ces mecs-là, ils se considèrent pas juste masovistes, ils se considèrent aussi inframatérialistes. En gros, l'inframatérialisme dans le monde de Disco Elysium, c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi comment le surnaturel aussi joue dans cet univers, parce qu'on est quand même dans un univers où il y a pas mal d'éléments surnaturels qui parfois arrivent. Et en gros, l'inframatérialisme, ça vient d'un mec qui s'appelle Ignus Nielsen, qui était un proche associé de Krakmazov à l'époque. Krakmazov est mort dans le monde de Disco Elysium, pareil pour Ignus Nielsen. Et en fait, c'est le premier à évoquer l'idée d'un plasma idéologique. Restez avec moi, c'est important. Et en fait, ce plasma idéologique, c'est à la base des théories inframatérialistes. Et en gros, les inframatérialistes croient que la pensée politique, elle est capable de se manifester dans une réalité matérielle sous forme de plasma, en fait. Et en gros, si on s'accorde à ces théoriciens qui sont clairement dans la spéculation, si elle est suffisamment puissante, en fait, on pourrait voilà, changer un peu la réalité, en gros. Et on est carrément dans X-Men. En gros, pour les inframatérialistes, un prolétaire qui aurait tellement foi envers le communisme, en fait, son cerveau, il pourrait envoyer des ondes qui alterneraient la réalité. Et ces ondes envoyées, du coup, par le cerveau, c'est ce qu'ils appellent le plasma, en fait. Ce serait, du coup, une personne capable de maîtriser ce plasma. Elle pourrait, voilà, dans un premier niveau, genre, se faire pousser la barbe. Genre, en mode, pousser la barbe. Avoir une endurance de malade au lit. Genre, apparemment, genre, c'est ce qu'ils disent en mode quelqu'un qui maîtriserait le premier niveau de plasma, il pourrait genre tenir 8 heures en mode wow. Genre, vous dites, mais après, c'est purement ironique, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il y a un deuxième niveau dans lequel, en fait, un individu qui aurait un total contrôle du plasma, en fait, il pourrait parler par la pensée. En gros, et du coup, on rentre clairement dans le folklore, c'est qu'en fait, il y a une légende qui raconte que Krasmazov et Nielsen, ils auraient eu une sorte de rendez-vous tous les deux, et comme ils avaient un contrôle total de leur plasma idéologique, ils parlaient pas. Ils envoyaient des ondes dans le cerveau de l'autre, et ils parlaient par la pensée.
Par télépathie.
Ouais, voilà, par télépathie. En gros, voilà, c'est en gros le niveau 2, c'est ça. Et en gros, le niveau 3, et bien évidemment, là, on rentre dans un délire où on est dans la spéculation, ça n'a jamais été observé, et si ça avait été, même si c'était possible, c'est un truc que seulement 0,001% des communistes pourraient faire. Et du coup, ce délire-là, apparemment, il y aurait un troisième niveau, en fait, ce serait du coup toute une société qui serait capable de maîtriser ce plasma-là, et en fait, du coup, on pourrait commencer à croire que ils remettent en question la physique, en fait. Il pourrait y avoir une sorte d'architecture inframatérialiste avec par exemple des pyramides qui seraient à l'envers, en fait, mais que du coup, en gros, l'inframatérialiste remet tellement tout en question que même, fuck la physique, en fait, c'est un concept capitaliste, ouais. Fuck la gravité bourgeoise, tu vois, ici, on l'évite, en fait. Et en gros, tout ça, c'est clairement, moi, je trouve assez, assez ironique, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, quand je vous expliquais que quand on rentre pour la première fois, on les voit faire une structure d'allumettes, et en fait, c'est des inframatérialistes, en fait, à ce moment-là, Esteban et Ulix, ils pensaient que tous les deux avaient une connexion assez forte et que leur structure d'allumettes allait tenir grâce au plasma qu'il y a entre eux, en fait. Et à ce moment-là, c'est clairement des mecs qui sont dans une forme un peu de désillusion. C'est des mecs qui refusent, en fait, de faire de la politique. Et ça montre bien un peu, on va dire, l'échec du communisme d'un point de vue idéologique dans le monde de Disco Elysium. C'est qu'en fait, on est face à des personnages qui refusent de se salir les mains, qui sont là, l'idée livre. Ils sont là, c'est des universitaires, mais ils croient pas en l'université. Pour eux, en fait, l'université, c'est... Tu peux pas apprendre le communisme à l'université. S'ils y vont, c'est pour la bibliothèque. En mode, pour eux, c'est les livres. On peut que apprendre le communisme à travers les livres. Et du coup, c'est une manière hyper assez pessimiste du communisme, je trouve ça assez défaitiste. Et du coup, dans tout ça, il y a Cindy. Et du coup, parce que apparemment, elle serait du coup dans un art qui ferait un peu le jeu du capitalisme, qui est avec ses actes de vandalisme. Pour eux, c'est pas des actes, c'est pas communiste, en fait. Et du coup, dans tout ça, il y a ce mépris là qui est envoyé vers Cindy. Mais à la fin du jeu, je trouve que le jeu arrive à créer ce moment de beau incroyable. Tout simplement, vous arrivez vers la fin. Pas vraiment du spoil, parce que c'est un moment assez random. Vous sortez de l'hôtel, et il y a une fresque, on va dire, au sol, qui est laissée par Cindy, qui est faite dans une peinture rouge, inflammable, et la peinture, il est écrit en français. En français, c'est-à-dire même dans les versions anglaises du jeu, c'est écrit en français, c'est écrit « Un jour, je serai de retour près de toi ». Et cette phrase-là, en fait, elle peut être vue de plusieurs manières. D'un point de vue personnel, on pourrait se dire que ça fait écho au passé de Harry avec voilà, son ex-femme, ces choses-là. Mais vis-à-vis de Cindy, qui est un personnage de gauche, là, clairement, on a une phrase qui symbolise une forme d'espoir, une sorte de retour du communisme. Et le fait que le jeu, avec Esteban et Ulix, nous balance des théories farfelues à coup de « on mérite la gravité », des choses qui sont clairement une forme de défaitisme un peu, où c'est des gens qui sont que dans ce qu'aurait pu être le communisme, en fait. Ce qu'aurait pu être, voilà, on rêve tellement que en fait avec le communisme, on aurait pu défier la physique. Et dans tout ça, le personnage qui est un peu bâclé, qui est un peu bâché plutôt, qui est bâché par ces intellectuels-là, Cindy, c'est elle à la fin qui fait le message le plus touchant et le plus beau, en fait. Le geste le plus fort. Et ce moment de beau-là, c'est clairement une sorte de claque, une sorte de à travers l'art, d'une certaine manière, qui sont des choses qui sont en plus critiquées par Esteban Ulix. À ce moment-là, Cindy, elle arrive à toucher le joueur comme aucun éconoclare ou inframatérialiste ou ce que vous voulez a réussi à faire, en fait. Et je trouve que ce moment-là, en fait, il prend un peu... parce que oui, c'est un jeu qui est clairement ouvertement de gauche. Les développeurs s'en cachent pas. Mais le fait d'avoir un peu ce recul-là et avoir... mettre en avant le personnage de Cindy qui est montré en plus voilà comme un personnage qui est ultra futé, qui est très qui est extrêmement provocateur, ce genre de choses, je trouve que c'est une manière de traiter la politique de manière tellement belle, en fait, et qui a clairement jamais été fait dans d'autres jeux vidéo, en fait. On est loin d'une sorte de manichéisme, c'est rempli ici voilà d'ironie, de légèreté, et tout simplement de c'est beau, voilà, tout simplement c'est beau. Merci Cindy.
Ouais. Tout à fait. Et du coup, ça nous amène à peu près à la conclusion de voilà, que Disco Elysium est un grand jeu.
Ouais, simplement. C'est un grand jeu.
Et c'est marrant parce que moi, en général, je note pas trop de trucs sur RNG. Je prends pas beaucoup de notes ou je mets des petits post-it. Mais là, je m'étais écrit quand même une conclusion vis-à-vis du jeu que je vais lire du coup. Disco Elysium est de ces jeux qui semblent à la base être de grands romans qu'on aurait ensuite adaptés au format de jeu de rôle. Une œuvre littéraire et philosophique déguisée en RPG. L'important n'est pas le crime, mais ce qu'il révèle sur la condition humaine, la mémoire, la responsabilité et la foi dans un monde sans repère. Revachol est comme un vivarium géant qui nous expose les limites de l'identité, la faillite des idéologies et la possibilité de se reconstruire dans un monde brisé. En combinant narration environnementale, dialogue aux petits oignons, BO atmosphérique et réflexion politique, Disco Elysium redéfinit ce que peut être une œuvre vidéoludique. Au-delà du divertissement, elle devient un reflet de l'abysse et du vide existentiel qui se cache sous nos pieds. Et malgré ça, ouais, ils vont vous faire vous asseoir sur la chaise la plus inconfortable du monde, et c'est un des mots qui me fait le plus rire dans n'importe quel jeu vidéo. Que votre barre de mana, enfin de morale, elle diminue quand vous êtes assis face à un mec, putain, la chaise est tellement inconfortable que vous êtes en train de perdre des PV. Et le personnage est en mode, ok, là c'est un outil de torture. Et c'est des trucs comme ça qui me font beaucoup trop rire, et je trouve ça fou que ça soit juxtaposé avec une œuvre d'une densité, d'une profondeur, ouais, comme tu dis, qui a des couches de lecture aussi profondes.
Et surtout, ouais.
Et voilà quoi.
Surtout l'usage du surnaturel. Je sais que j'ai pas envie de spoiler la fin, mais il y a toute une quête hyper, vraiment exceptionnelle dans le jeu. Si j'ai un conseil à vous donner, faites la quête des cryptozoologistes. Parce que ça vous offre un moment. Vraiment, c'est le genre de moment. Il y a peu de moments dans le jeu vidéo où. Vraiment, la fin de Disco Elysium. Il y a peu de fins qui tapent comme celle-ci, en fait. Ça vient jouer avec des éléments. Comme on l'a dit, c'est un monde qui est très froid, qui semble un peu à l'arrêt, très terre-à-terre. Il y a une sorte de nihilisme un peu total où
la pauvreté touche tout. Ouais, littéralement, il y a un truc.
Et dans tout ça, il y a ces éléments un peu de surnaturel qui viennent apporter une sorte de... Bah de... Ça nous fait relativiser un peu, une sorte de relativisme en mode, de toute façon, pas vraiment d'importance. Il y a... on est rien, en fait. Et c'est... Non, Disco Elysium, shout-out. Shout-out Zaoum, shout-out Robert Kurwitz.
Shout-out à Kim Kitsuragi.
Kim Kitsuragi, shout-out Kuno. Nea, la meuf qui fait les dés, là. les Hardy Boys aussi. Non, moi, là, on vous dit ça, mais c'est parce que c'est des personnages... Je pense que c'est un jeu qui peut sembler vaste, clairement. Il y a un mec qui m'a fait dire ça une fois, un pote à moi, il m'a dit « J'ai lâché le jeu parce que j'avais l'impression qu'il était plus intelligent que moi. » Et le jeu a ce délire-là où il va vous lâcher beaucoup de lore, beaucoup de concepts politiques, mais c'est pas spécialement grave, parce que clairement, ce qui va définir l'expérience, c'est toutes les petites quêtes que vous allez avoir avec les personnages, les rencontres que vous allez faire, et il n'y a pas forcément de la philosophie, il n'y a pas forcément énormément de philosophie partout.
Non, en fait, ça, il y a à bourrer, à manger, en fait. C'est si vraiment vous êtes, je vais dire, un facho de ouf, vous êtes là en mode, moi, je veux...
Faites une fasciste run.
Vous pouvez vous faire... Ouais, faites une fasciste run, faites-vous kiffer. Si c'est au contraire plutôt un truc où vous cherchez de la politique plutôt de gauche, ou même un truc en mode « Ok, nique le capitalisme et tout », très concrètement codé. Genre, shout-out. Vraiment, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Genre, si vous voulez juste une enquête,
si vous voulez, si vous voulez juste un bon jeu, en fait. Franchement, si vous voulez juste un bon jeu avec des personnages bien écrits et des doublages soignés.
C'était dit érodie. Je crois que c'était même Canard PC qui avait dit ça sur un post un peu ironique, où il disait « Ouais, les meilleurs jeux de tous les temps. » Moi, il disait juste « Ouais, genre, pourquoi jouer à Disco Elysium alors que je peux lire un livre ?» Et c'est un peu ça, c'est moi, je suis pas un très gros lecteur par exemple, mais malgré tout j'ai été accroché de A à Z quoi, vraiment la boîte de texte, les voix qui viennent vous parler, genre les monologues intérieurs de Harry, ils sont tellement genre agréables à écouter, tellement cool, et faites des petites sessions, si jamais c'est un jeu où ça peut être quand même très très verbeux, très dense, vous vous calez pas genre 3-4 heures dans la tête d'Harry, dans votre tête, c'est moins que ça vous tue, donc faites des petites sessions, tranquille. Et jouer à Disco Elysium.
Ouais, voilà, jouer à Disco Elysium. Comme Returnal, c'est des jeux, c'est des expériences uniques. Et nous, on considère que ça permet d'ouvrir vos horizons, en fait. C'est des jeux qui méritent clairement votre attention, je trouve. Donc, on a fait que deux épisodes qui portent que sur des jeux. Parce qu'on considère que, voilà, ces jeux-là, ils méritent une attention particulière. Ils méritent un épisode d'une heure. Ne vous inquiétez pas, on parlera d'autres jeux dans le futur.
Voilà.
On va en finir ici, c'était un long épisode, en tout cas nous ça nous a fait kiffer, c'est un jeu qu'on adore par-dessus tout. C'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM, jouez à Disco Elysium.
Exactement.
Merci Ulysse. Vous écoutez RNG.
This is officer Alice Demetri, precinct 57. Hello lieutenant, how may I assist you? Hello? Who is this?